Chers amis, je pense à un passage dans le livre qui s'appelle Les Lamentations de Jérémie. Je lirai d'abord quelques versets du troisième chapitre, du début du troisième chapitre. Verset premier. Je suis l'homme qui a vu l'affliction par la verge de sa fureur. Il m'a conduit et amené dans les ténèbres et non dans la lumière. Certes, c'est contre moi qu'il a tout le jour tourné et retourné sa main. Il a fait vieillir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a bâti contre moi et m'a environné de fiel et de peine. Il m'a fait habiter dans les lieux ténébreux comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Et puis je continue dans le verset 19. Non, déjà le verset 18. J'ai dit, ma confiance est périe et mon espérance est en l'éternel. Souviens-toi de mon affliction et de mon bannissement. De l'absinthe et du fiel. Mon âme s'en souvient sans cesse. Et elle est abattue au-dedans de moi. Je rappelle ceci à mon cœur, c'est pourquoi j'ai espérance. Ce sont les bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne cessent pas. Ils sont nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est ma portion, dit mon âme, c'est pourquoi j'espérerai en lui. L'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le recherche. C'est une chose bonne qu'on attende, et dans le silence, le salut de l'Éternel. Il est bon à l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Je lirai d'abord jusqu'ici, après j'aimerais encore ajouter quelques versets dans ce même chapitre. Chers amis, certainement nous savons que bien souvent, aussi dans les réunions de culte que nous avons, nous pensons à des, en tout cas chez nous c'est le cas, nous pensons quelquefois à quelques versets dans ces lamentations de Jérémie. Et c'est certainement aussi juste. Parce qu'il y a un homme qui parle, nous savons bien que c'est Jérémie qui parle, un homme qui parle, mais qui a des sentiments, qui a dans son cœur des sentiments qui sont très proches et très semblables aux sentiments que le Seigneur Jésus avait. Et c'est pour cela que nous lisons quelquefois ces quelques versets dans ces lamentations de Jérémie. Je ne vais pas maintenant lire encore tous les versets qui directement nous parlent de lui. Nous les connaissons. Mais j'aimerais dire que Jérémie était un homme de Dieu, un homme qui avait été choisi par Dieu pour parler à son peuple. À son peuple qui était dans un état très triste, dans un état que Dieu devait juger. Et il avait des messages à livrer à ce peuple, des messages qui lui paraissaient très, très durs, qui lui paraissaient très difficiles à dire, parce que d'abord il disait « Moi je suis jeune, je ne peux pas faire ça ». Et il hésitait vraiment de le faire. Mais alors le Seigneur, Dieu, l'a encouragé, mais c'est à toi que que je demande que tu le dises. Je serai ta langue. Toi, tu vas dire ce que je vais te dire, ce que je vais mettre sur ton cœur. Et alors, il était prêt à le faire. Et plus qu'il le fait, l'Éternel lui montrait que c'était vraiment un état lamentable dans le peuple Juda. Un état lamentable qui devait être jugé par Dieu. Et ça lui pesait sur le cœur. Là, il disait, mais comment est-ce que ça peut être? Et Dieu a dit aussi quelquefois déjà qu'il va faire ceci, il va faire cela. Et il y a des choses qui sont arrivées, il y avait des ennemis qui se sont jetés sur le peuple. Et Jérémie en souffrait beaucoup. C'est déjà dans le livre de Jérémie, on trouve ça. Mais ici, nous avons un appendix, on pourrait dire, qui s'appelle même les lamentations de Jérémie. Alors, l'état lamentable dans lequel le peuple était, cela le faisait exprimer des lamentations envers son Dieu. Nous sommes dans un état ici, aujourd'hui, je ne parle pas de vous ici directement, mais je parle de nous tous, ceux qui sommes chrétiens, qui appartenant au peuple de Dieu aujourd'hui, non pas au peuple terrestre, mais au peuple de Dieu aujourd'hui, nous sommes aussi dans un état. Comme on pourrait nommer lamentable. Il y a bien des choses qui nous pèsent sur le cœur, bien des choses qui se font sans qu'on y réfléchisse, bien des choses qu'on fait comme ça, à la légère. Tant de chrétiens avec lesquels nous sommes liés parce que nous avons le même Père, parce que nous avons le même Sauveur, le même Seigneur. Mais alors, nous regrettons beaucoup qu'ils suivent d'autres chemins. Et pour nous aussi, est-ce que la fidélité... Et c'est quelque chose que nous avons vraiment toujours dans notre cœur. On se pose la question aussi. Est-ce que Dieu aurait aussi peut-être quelqu'un qui nous dise, mais écoutez, vous ne me suivez pas vraiment. Moi, je suis très triste de votre état, de très triste de vos actions. Et c'est ainsi que Jérémie était capable vraiment d'exprimer quelques sentiments intérieurs concernant l'état du peuple. Et même dans quelques passages là, il dit « je suis l'homme qui ». C'est-à-dire, il s'identifie tellement avec le peuple que quelquefois, les choses qu'il exprime, c'est le peuple en réalité qui parle, mais c'est lui qui parle comme le représentant du peuple. Et nous trouvons encore davantage, c'est ce que j'ai dit tout à fait au début, tout à l'heure, ce que nous trouvons surtout, c'est que Jérémie est capable de dire, d'exprimer des sentiments qui sont les sentiments du Seigneur Jésus lui-même. Et les sentiments que le Seigneur Jésus avait lui-même quand il était ici sur la terre, quand il était au milieu de son peuple, quand il a rencontré tout ce qui était dans le cœur du peuple pour lequel il était venu. Les brebis, n'est-ce pas, qu'il voulait chercher. Quand nous pensons par exemple à Ézéchiel chapitre 34, chapitre que nous savons bien, où il s'agit des bergers d'Israël qui ne faisaient rien de positif pour le peuple. Alors là, il dit enfin à lui, mais moi je suis là, et moi je vais m'occuper de mon peuple. Je vais m'occuper des brebis et je vais les amener à des lieux où ils trouveront vraiment du pâturage. Parce que les bergers d'Israël les laissaient affamés. Et le Seigneur, et c'est plus encore ce que nous trouvons ici, c'est que le Seigneur qui n'était pas seulement venu et a souffert seulement de ce qu'il a vu dans son peuple. Ici ou là, il a trouvé quelques âmes qu'il comprenait, quelques-uns seulement. Pensons par exemple à une seule qui a su, même, savait même le moment où le Seigneur Jésus allait rencontrer les plus grandes souffrances, souffrances jusqu'à la mort, dans son obéissance, dans sa fidélité envers son Dieu, dans son amour pour le peuple qu'il s'est donné lui-même. Marie de Béthanie qui avait compris ça. Et elle, encore d'autres, même ceux qui étaient près de lui, les disciples qui étaient là aussi, présents à Béthanie, est-ce qu'ils ont ressenti quelque chose de ça? Ils ont écouté, entendu, écouté, mais ils n'avaient pas cette ils n'étaient pas entrés tellement dans ce qui est, ce qui se trouvait dans le cœur et sur le cœur du Seigneur. Et alors voilà, il était vraiment de celui dans l'Écriture. L'Écriture parle ici, dont Jérémie parle ici quand il dit « je ». Et nous pouvons même dire certaines choses qui se trouvent là sont des choses que nous pouvons directement appliquer au Seigneur Jésus. Pas tous, d'ailleurs. Attention, je le dis tout de suite. Il y a des choses, par exemple, un verset que j'ai lu, je prends le verset où j'ai dit, je lis déjà encore le verset 18, j'ai dit, ma confiance est périe et mon espérance en l'Éternel. Tout est parti. Périe, ça veut dire, alors, ça n'existait plus. Alors ça c'est la voix de Jérémie. Pour lui, c'était comme ça. Et là, nous voyons, je l'ai lu simplement aussi pour souligner quelle différence il y a quand même encore entre Jérémie avec ses lamentations et le Seigneur Jésus. Cela, il n'a jamais dit. Sa confiance était parfaite. Son espérance était parfaite. Il n'y avait rien dans son cœur qui aurait accusé Dieu. Vous comprenez quand je dis ça? Rien du tout. Mais d'autres versets nous parlent vraiment du Seigneur. J'aimerais juste nommer quelques-uns. Le premier. Je suis l'homme qui a vu l'affliction par la verge de sa fureur. La fureur, le courroux de Dieu. Qui pouvait dire ça vraiment? Dans le fond de la pensée. Je suis l'homme. Il y a un seul homme qui pouvait dire ça ainsi. C'est lui qui a senti, ressenti cette affliction par la verge de la fureur de Dieu. Il m'a conduit à amener dans les ténèbres. Oui. Mais bon, ce n'est pas difficile de comprendre. Et donc, certes, c'est contre moi qu'il a tout le jour tourné, retourné sa main. Ah, tout le jour. Enfin, dans ces heures où le Seigneur Jésus portait les péchés, là où il était devenu vraiment cet sacrifice pour le péché, il a ressenti ça profondément, ce qui était sûr, ce qui pesait sur lui. Aussi, ce que nous trouvons dans le verset 4, il a fait vieillir ma chair et ma peau. Ça veut dire simplement aussi, ces versets, il parle du fait que aussi il est vraiment mort. Il a donné son corps et il l'a donné dans la mort. La mort, c'était aussi la mort physique, n'est-ce pas? Nous comprenons bien que c'est encore, il y a encore quelque chose davantage, la deuxième mort. Je peux l'expliquer comme vous me comprenez quand je dis ça. La deuxième mort, c'est-à-dire, c'est que le Seigneur a ressenti ce qui serait le jugement pour tous ceux qui ne croient pas, pour tous ceux que Dieu doit juger. Le Seigneur est entré là. Ça, c'est très, très profond. Et ensuite, encore... Il a bâti contre moi et m'a environné de fiel et de peine. Nous pouvons certainement penser aussi à tout ce que le Seigneur a souffert encore de la part, non de la part de Dieu, mais aussi de la part des hommes, qui lui ont apporté beaucoup de fiel, ça c'est amertume, je crois, encore plus, oui. Ça, cette amertume que le Seigneur a dû ressentir dans un cœur absolument pur, il a ressenti la haine des hommes, le mépris des hommes. Tout cela, c'était quelque chose de très amer pour lui, qui était venu pour les sauver, pour se donner lui-même par amour pour eux. Et puis, au verset 13, il a fait entrer dans mes reins les flèches de son carquois. Je suis la risée de tout mon peuple, leur chanson tout le jour. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a abreuvé d'absinthe. Ce sont des expressions qui parlent. Oui, nous comprenons bien Jérémie, comme d'ailleurs aussi David emploie dans ces quelques psaumes qui parlent des souffrances du Seigneur Jésus, emploie aussi des images que nous pouvons comprendre. Parce que Dieu aimerait nous faire un peu ressentir quelque chose que le Seigneur Jésus a souffert. Nous sommes quelquefois étonnés des expressions qui sont données. Mais pourquoi? Parce que Dieu cherche à nous faire comprendre quelque chose. Et il le fait aussi en nous donnant quelques images, quelques symboles qui nous font comprendre davantage ce qui était les souffrances du Seigneur. Mais revenons maintenant à ce que Jérémie a ressenti. Il était dans une situation qui était vraiment, je le répète, lamentable. Il doit dire au chapitre 2, peut-être là, chapitre 2, il a parlé de son peuple, il a parlé en fait de Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Jérusalem est le symbole pour le peuple, Jérusalem. Et alors, ce qui était arrivé à Jérusalem, il le dit dans les versets 6, il a saccagé sa clôture comme un jardin, il a détruit le lieu de son assemblée. L'Éternel a fait oublier dans Sion jour solennel et sabbat, et dans l'indignation de sa colère, il a méprisé roi et sacrificateur. Et je l'ai encore. Ensuite, le Seigneur a rejeté son autel, il a répudié son sanctuaire, il l'a livré en la main de l'ennemi, les murs et les palais. On a poussé des cris dans la maison de l'Éternel, comme au jour d'une fête solennelle. L'Éternel s'est proposé de détruire la muraille de la fille de Sion. Il a étendu le cordeau, il n'a plus retiré sa main. Il n'a pas cessé de détruire. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Nous voyons que Jérémie a une vue sur ce que est arrivé à la ville de Jérusalem. Vous vous rappelez ceux qui avaient l'occasion de notre étude, que nous, on a eu un moment aussi, qu'on a parlé de la muraille, vous vous rappelez? De la muraille. La muraille était détruite. Qui avait détruit la muraille? C'était les Babyloniens qui étaient venus, n'est-ce pas, qui ont détruit la muraille de Jérusalem. C'est eux qui ont détruit les maisons. C'est eux qui ont fait arrêter le sacrifice. C'est eux qui ont arrêté tout ce qui était autorité royale. Tout cela, c'était les Babyloniens, non? C'était Nebuchadnezzar, non? Oui, c'était lui. Mais il n'était rien d'autre que l'instrument dans la main de Dieu. Et c'est exactement cela que Jérémie ressent et ce qu'il sait. En réalité, derrière tout ce qui est arrivé à Jérusalem, derrière ce que les Babyloniens ont fait, se trouve l'Éternel. C'est un jugement de l'Éternel. C'est notre Dieu lui-même qui a fait ça. Voilà la confession qu'il fait ici. Il a fait ça. Lui, il a fait ça. Ce n'est pas les Babyloniens, les ennemis qui sont seulement, qui sont coupables. Bon, ils sont coupables, oui. Mais nous devons reconnaître que qu'ils étaient, pour ainsi dire, les instruments de notre Dieu. Voyons combien grande est la fureur de l'Éternel. Combien nous l'avons méprisé. Combien grande est notre responsabilité. Combien grande est notre culpabilité. Combien grande est notre culpabilité que Dieu ne pouvait faire autrement que cela, qu'il a dû envoyer contre nous ses ennemis. Voilà une confession qui se trouve derrière. Et c'est pour cela que nous lisons encore ce verset-ci. Verset 20. Non, je lirai verset 19 déjà. Souviens-toi de mon affliction et de mon bannissement, de l'absinthe et du fiel. Mon âme s'en souvient sans cesse et elle est abattue au-dedans de moi. Un trait tiré. Je rappelle ceci à mon cœur. C'est pourquoi j'ai espérance. Deux points. Alors sa pensée tourne maintenant vers Dieu. Si c'est lui qui est derrière tout ce qui nous arrive, derrière tout ce qui arrive à Jérusalem, derrière ce qui nous fait tellement souffrir, si c'est lui derrière, ce sera aussi lui seul en qui nous pouvons mettre notre espérance, que nous pouvons demander de vraiment nous faire sortir de la torpeur et aussi de cette mauvaise pensée que nous avons, torpeur peut-être, c'est pas le point, de tout ce qui est dans notre cœur, et aussi de cette affliction que nous avons. C'est lui seul, notre espérance, ce n'est pas que nous pouvons faire quelque chose, rien, nous ne pouvons rien faire, mais tout sera, en tout, ce sera lui seul. Et chers amis, c'est la même chose encore aujourd'hui. Quand nous pensons à toute l'infidélité qui se trouve parmi nous, les croyants, les chrétiens, l'Église, n'est-ce pas, dans l'Église, et nous ne pouvons pas seulement penser à ces quelques personnes avec lesquelles nous nous réunissons chaque dimanche, n'est-ce pas. C'est vrai, ça. Nous avons de la communion entre nous et nous voulons, nous aimons suivre le Seigneur. Est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que c'est vraiment la fidélité qui nous caractérise? Nous ne pouvons pas le dire de nous-mêmes, nous posons peut-être une question. Mais nous le demandons au Seigneur qu'il nous accorde d'être vraiment fidèles envers lui. Mais quand nous pensons à l'ensemble, alors nous devons dire oui, c'est très lamentable. Et qui peut aider? Nous. Alors nous, on va travailler. On va aller appeler, faire des appels. On va écrire des lettres. On va leur montrer quel est le bon chemin. Oui, peut-être nous devons le faire. C'est vrai, peut-être. Mais qui fait ça? Nous. C'est nous qui arrivons à changer l'état dans lequel la chrétienté et les croyants se trouvent. Eh bien non. C'est qui? C'est lui. Et seulement le Seigneur. C'est à lui que nous devons faire appel, aussi dans les situations, dans les différents, et maintenant je deviens un peu pratique, même dans les différents rassemblements. Il n'y a pas d'unanimité des frères et sœurs, où il y a une contradiction des uns contre les autres. Il y a des paroles dures qui se disent les uns contre les autres. Il y a tant de choses que nous regrettons beaucoup, que nous voyons et nous sommes tristes. Mais qui peut aider? Bien sûr, c'est la parole de Dieu que nous devons regarder, où nous trouvons aussi ce qui plaît au Seigneur. Et ce qu'il nous dit aussi à différents passages, ce qu'il aimerait avoir dans nos cœurs et dans nos activités. Mais c'est lui auquel nous avons recours. Il n'y a personne d'autre. Et c'est pour ça que nous avons aussi ce verset qui nous encourage vraiment. Mon espérance est où? Deux points. Ce sont les bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne cessent pas. Les bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés. Et oui, le Seigneur avait laissé, Dieu avait laissé toujours un petit résidu dans le peuple. Il y avait toujours encore des âmes. Ça se voit un peu plus tard, quand Dieu leur parle. Il y en avait. Il y en avait même ceux qui pouvaient rentrer de Babylone et qui pouvaient recommencer quelque chose, qui pouvaient bâtir l'autel qui avait été détruit, qui pouvaient bâtir la maison après. Et qui étaient même aussi, qui ont compris enfin aussi que c'était nécessaire de réparer aussi les brèches, de réparer les murailles. Il y avait encore ce résidu-là. Et chers amis, on aimerait aussi que ce soit aujourd'hui encore le cas, qu'il y ait encore des cœurs qui comprennent, qui se soumettent et qui voient quand même en haut, ils savent. Ce sont les bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés. Nous sommes encore en vie et nous sommes encore ceux qui peuvent encore être obéissants à la parole. Ce sont les bontés que c'est ainsi. Que nous ne sommes pas consumés, car ces compassions ne cessent pas. Oui, chers amis, combien de compassion est-ce que nous connaissons déjà? Je me rappelle, par exemple, c'est quelque chose que Dieu peut faire, que le Seigneur peut faire. Il y avait cette dissension énorme pendant tout un temps entre deux groupes de frères. Et pour finir alors, par la prière et aussi par la parole de Dieu qui a été présentée, et encore la prière, et puis pour finir, les cœurs et les consciences ont été atteintes. Et il y avait là, tout d'un coup, la confession des uns envers les autres. Qui a fait ça? C'était les compassions de Dieu qui a agi ainsi dans le cœur et dans les consciences. Parce que c'est aussi par la conscience que nous devons arriver à une confession. Est-ce qu'il n'était pas juste aussi dans mon chemin, dans ce que moi j'ai fait? Est-ce que j'ai oublié faire ceci? Est-ce que j'ai bien fait ça? Eh bien, attention, nous nous posons la question, et si nous nous posons la question, c'est Dieu qui peut nous répondre. Et j'aurais attendu autre chose. Et si nous sommes vraiment droits et ouverts devant Dieu, il nous montrera combien de choses sont à confesser aussi quant à moi personnellement. Mais les compassions ne cessent pas. Les compassions ne sont pas ici ou là, mais elles ne cessent pas. Les compassions restent là encore aujourd'hui en 2024. Les compassions de notre Dieu sont toujours encore là. Et dans ces compassions, il agit encore. Elles sont nouvelles chaque matin. Nous prenons cela très souvent aussi pour notre vie de tous les jours. Et nous avons certainement raison de le faire. Je ne dois pas y penser aussi. chaque jour, le matin, on se lève et chaque jour, on peut savoir la compassion du Seigneur est là, sa bonté est là, sa protection est là. Je peux vraiment m'adresser à lui pour qu'il me garde du mal, du mal qui peut m'arriver, du mal qui peut être dans mon cœur, qui peut être une tentation, etc. Elles sont nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité. Et oui, fidélité, la vraie fidélité, c'est en Dieu. Il tient toujours ce qu'il a dit. Il est fidèle en tout. Sa parole est une fidélité absolue. L'Éternel est ma portion, dit mon âme. L'Éternel est ma portion. Ça rappelle un peu aussi un psaume de David, peut-être nous pouvons juste le voir, un psaume 16. Psaume 16, verset 5. L'Éternel est la portion de mon héritage et ma coupe. Tu maintiens mon lot. Les cordeaux sont tombés pour moi dans le lieu agréable. Oui, un bel héritage m'est échu. Nous savons bien que c'est la voix du Seigneur Jésus qui parle. Mais alors, il nous permet aussi de dire, ma portion, c'est l'Éternel. C'est en lui que je trouve la paix. Dans la confiance en lui qui reste éternellement fidèle, c'est là que je trouve la paix. Aussi peut-être dans les circonstances difficiles. Et nous les connaissons. Peut-être nous sommes même objet de critiques et de suppositions fâcheuses. Ça peut arriver. Alors, qui est notre espérance ? Qui est notre portion? L'Éternel est ma portion. Je peux être aussi tranquille. Ça me donne la paix de le savoir. C'est mon Dieu qui sait tout. Et c'est lui qui prend soin aussi de tout ce qui m'arrive. Et puis maintenant, peut-être faut-il que je dise encore une chose. Vous avez dans la Bible, au début des Lamentations, une petite remarque concernant les chapitres. Les chapitres, je pense que c'est aussi en français, oui. Oui, la lettre hébraïque initiale de chacun des versets des chapitres 1, 2 et 4. Suit l'ordre alphabétique. Au chapitre 3, il en est de même pour chaque paragraphe de trois versets. La lettre initiale de chacun de ceux-ci restant la même. C'est-à-dire, nous avons donc dans les chapitres 1, 2 et 4, combien de versets ? 22 versets, selon l'ordre alphabétique de l'alphabet hébreu. Et nous avons 66 versets au chapitre 3, parce que ce sont toujours trois versets avec la même, commençant avec la même lettre, et puis ça fait trois versets par 22, 66 versets. C'est clair. Donc, les trois versets sont toujours une sorte d'unité. Et ils vont ensemble. Et si Dieu fait quelque chose comme cela, il a réussi sa pensée. C'est lui qui a fait ça. Ce n'est pas un homme qui a mis cela ensemble. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait un certain cet ordre dans sa parole. Quelquefois, nous trouvons ça d'ailleurs aussi dans les psaumes. Et dans les psaumes, il y a aussi souvent un très bel ordre, un ordre que Dieu a donné. Et c'est donc aussi ici que nous pouvons trouver ça. Donc, nous savons que les versets 19 à 21 font un ensemble. Et la même chose est vraie pour les versets 22 à 24. C'est ce que nous avons eu maintenant. Et puis, il y a la même chose pour les versets 25 jusqu'au verset 27. Lisons encore ce verset 25. L'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le cherche. C'est une chose bonne qu'on attende, et dans le silence, le salut de l'Éternel. Il est bon à l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Quelle est la pensée centrale de ces versets que nous trouvons là? La pensée centrale me semble être la soumission à Dieu qui est une aide pour nous. Dans les trois versets avant, nous avons la bonté et les compassions de Dieu qui nous sont rappelées. Dans les trois versets qui suivent, nous trouvons la soumission que nous devons apprendre aussi par les difficultés par lesquelles nous passons. Dieu a aussi en vue quelque chose pour le croyant, en vue quelque chose pour le résidu. Il lui rappelle, je le dis encore une fois, il rappelle tout d'abord qu'il s'agit premièrement de la bonté et des compassions de Dieu. C'est lui. À lui que Dieu veut penser. Et c'est là que vous pouvez trouver l'encouragement. La deuxième chose que je vais vous enseigner, c'est la soumission. Et la soumission, dans la dernière partie de ce verset, nous trouvons « Il est bon à l'homme de porter le joug dans sa jeunesse ». C'est très, très bien compréhensible. Dieu dit « Ce qui vous a manqué, c'est la vraie obéissance. Je vous dis, la soumission, c'est là le chemin. Et il faut l'apprendre déjà très tôt. On n'apprend pas ça quand on a déjà 40 ans, quand on est un homme qui est arrivé. Vous me comprenez quand je dis ça. Non, c'est dans la jeunesse qu'il faut comprendre et apprendre ce que c'est que l'obéissance. Donc, cette soumission à ce que Dieu dit. Voilà, je vous rappelle ça. Et c'est très bien pour vous, et ça peut être pour vous un encouragement. Apprenez la soumission, apprenez l'obéissance. Déjà, quand vous êtes encore alors les jeunes. Nous avons ensuite les trois versets qui suivent. Il est assez solitaire. Et c'était parce qu'il l'a pris sur lui, il met sa bouche dans la poussière, peut-être y aura-t-il quelque espoir. Il présente la joue à celui qui le frappe, il est rassasié d'opprobre. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est encore une fois la soumission. Et maintenant, la soumission à ce qu'on doit souffrir. Et non pas dans le sens de l'obéissance que nous avons tout à l'heure dans les trois versets précédents. Là, la soumission est liée avec l'obéissance. Maintenant, la soumission est liée avec ce que nous rencontrons, ce que Dieu permet, même un opprobre qui peut être ma part. Soumets-toi aussi là. C'est donc une soumission que nous trouvons deux fois déjà. Regardons après encore le verset 28. Il est assis solitaire et se tait parce qu'il a... Non, c'est ce que j'avais déjà maintenant. 31, pardon. Car le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais s'il afflige, il a aussi compassion selon la grandeur de ses bontés. Car ce n'est pas volontiers qu'il afflige et qu'on triste les fils des hommes. Voilà ce que Dieu répète encore une fois. La soumission, quand vous êtes dans objet d'opprobre, quand vous souffrez, soumettez-vous et je suis toujours là. Je suis toujours là avec ma compassion. Moi, je vous vois aussi quand vous êtes dans cet état-là, soumis à des souffrances. Je suis là avec mes compassions. Je suis là avec ma bonté. Je ne vous oublie pas. Je trouve ça très très beau que Dieu donne cela encore une fois pour encourager dans un chemin de fidélité et de confiance en Dieu. Et nous voyons encore plus loin. Oui, alors ce verset, on le comprend bien, car ce n'est pas volontiers qu'il afflige et contriste les fils des hommes. Non, ce n'est pas ce qu'il veut. C'est quand il le fait seulement parce que c'est nécessaire. Parce que c'est nécessaire que vous appreniez ça. Que vous appreniez aussi que je suis plein de compassion. Que je suis le seul qui peut vous aider. Et ensuite, verset 34. Qu'on écrase sous ses pieds tous les prisonniers de la terre, qu'on fasse fléchir le droit d'un homme devant la face du Très-Haut, qu'on fasse tort à un homme dans sa cause. Le Seigneur ne le voit-il point? Voilà ce qui peut vous arriver. Ça peut arriver, non? Vous connaissez ça? Oui. Mais le Seigneur ne l'emprunte-t-il pas? Ne le voit-il point? Ah si, ah si. Dieu le voit. C'est-à-dire maintenant, c'est encore un encouragement, en réalité un encouragement. Dieu le voit. Même quand il y a des choses qui vous arrivent par la méchanceté d'autres hommes, alors moi, je le vois, Dieu le voit, Dieu en prend connaissance. Et il prend aussi la cause de celui qui croit en lui et qui met sa confiance en lui. Prenons encore les trois derniers de ces paragraphes. 37. Qui est-ce qui dit une chose et elle arrive quand le Seigneur ne l'a point commandée? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les mots et les biens? Pourquoi un homme vivant se plaindrait-il? Un homme à cause de la peine de ses péchés? Qu'est-ce que c'est? Il arrive quelque chose, vous posez peut-être la question, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi? Pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Attention. Dieu voit tout, nous avons déjà vu, Dieu voit tout, mais aussi Dieu fait exactement ce qui est dans ses plans. Le bien, le mal, tout ce qui arrive, lui est au-dessus. C'est une pensée que nous avons eue peut-être surtout dans des temps où nous avions beaucoup de difficultés, même pas la difficulté de nous réunir. Pas très longtemps. Pendant quelques années, ce n'était pas possible, pas permis par les autorités des États. Nous n'avons pas pu nous réunir. Quelques-uns ont dit, mais comment, pourquoi Dieu le fait-il? En Allemagne, en 1937, tout d'un coup, le régime nazi a défendu de se réunir, défendu les réunions. Alors, ils se sont posés, mais pourquoi? Pourquoi ça? Eh bien, Dieu est au-dessus. C'est lui qui sait pourquoi il fait quelque chose. Il voit tout, il sait aussi tout, et il accomplit toujours ses plans. Voilà ce qui est dit dans ces trois versets. Je les ai lus, pourquoi ? Je ne l'ai pas dit au début, je les ai lus pourquoi ? Parce que ces versets que nous venons de lire, depuis le verset 19 jusqu'au verset 39, incluent, forment dans le texte original comme une strophe. Nous avons après encore une strophe qui va depuis le verset 40 jusqu'au verset 54. Et encore une dernière strophe, avec des contenus un peu différents. Et c'est pour ça que j'ai lu, alors pour ainsi dire, cette strophe avec ces groupes de trois versets. Et dans ces trois versets, Dieu nous donne des encouragements. Et j'espère que dans tout l'état lamentable que nous trouvons, que nous y trouvons vraiment un encouragement. Nous savons, Dieu reste fidèle. Nous savons, Dieu est plein de compassion. Nous savons que Dieu est plein de bonté envers les siens. Nous comprenons que bien que Dieu, quand il nous fait arriver quelque chose, nous devons nous soumettre. C'est toujours bien de se soumettre à ce que Dieu fait. Nous comprenons bien aussi que Dieu nous dit, mais soyez obéissants, soumettez-vous à ce que je vous dis. Et n'oubliez pas que je sais tout et que je l'ai aussi tout en jugement. Ne vous en inquiétez pas de cela, c'est moi qui sais tout. Et quand il y a du mal qui arrive ou du bien qui arrive, attention, je suis au-dessus de tout. Moi, j'ai mes plans. Moi, je sais pourquoi cela vous arrive. Il sait aussi pourquoi il permet tant de difficultés dans les assemblées. C'est pour nous amener à une fidélité plus grande, à nous amener à nous soumettre, à nous humilier devant lui, à avoir vraiment des cœurs humiliés, des cœurs vrais devant lui pour retrouver alors dans ses compassions et dans sa bonté, retrouver le courage pour continuer selon sa pensée et d'apprendre ce que c'est que la fidélité. La fidélité pratique aussi dans nos relations entre nous, la fidélité pratique quant à tout ce que nous pensons et disons et faisons dans l'ensemble des rassemblements, de l'Assemblée. Des encouragements qu'il nous donne, que nous devons comprendre. Pourquoi est-ce qu'il nous fait arriver tout ça? Il y a notre faute d'une part, Dieu le voit, mais dans sa bonté, il a des compassions. Je le fais arriver parce que je vous aime. Quand vous apprenez ce que je veux dire, quand vous apprenez ce qui vous manque, quand vous apprenez ce que j'aimerais voir dans votre cœur et dans votre vie de frères et sœurs, dans votre vie d'assemblée, je suis là. Comptez sur moi. C'est ce qu'ici Jérémie peut dire. Plus tard encore, il parle des confessions. Oui, c'est bien. Dans la strophe suivante, c'est déjà les confessions qu'il mentionne. Alors, c'est comme si nous pouvons comprendre ce que Dieu a dit dans cette strophe. Nous venons de regarder un petit peu dans cette strophe. Nous avons compris. Nous devons confesser maintenant. Il y a des choses que nous avons à confesser. Et puis la strophe suivante, alors Dieu donne encore une ouverture, donne encore une porte de lumière qu'il a pour eux. Ça, c'est très beau de voir comment Dieu agit même dans une prophétie et dans un livre de lamentation. Lui, il est plus grand. Il est plus grand aussi que nos lamentations. Nous pouvons bien être tristes de beaucoup de choses, mais lui, il est toujours encore plus grand. Ayons confiance en lui, en ce que nous avons vu dans ces quelques versets. Nous avons un Dieu plein de grâce, plein de compassion, plein d'amour, mais aussi un Dieu qui est saint, qui est lumière, parce que nous apprenons là aussi, qui est lumière, qui sait tout, et qui accomplit ses plans. Et ses plans, les plans de Dieu pour son peuple, sont toujours des plans d'amour, toujours des plans d'amour. Et ça, nous ne devons pas oublier. Ça peut nous certainement encore encourager dans bien des situations que nous vivons. Peut-être encore, peut-être qu'il laisse encore durer des choses qui nous attristent. Que notre confiance en lui et en son amour reste.
God.